Une vie, une œuvre, Eddy Lamarr, 1914, Autriche-Hongrie, 2000, États-Unis. Hedwig Eva Maria Kissler naît à Vienne. Son père, Emil Kissler, est directeur de banque, tandis que sa mère, Gertrud Lipschitz, est pianiste. Depuis 2005, on célèbre en Allemagne, Autriche et Suisse la fête des inventeurs, le jour de son anniversaire le 9 novembre. L'invention qui l'a rendue célèbre est réalisée avec le pianiste Georges Anteil lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils mettent au point une technique pour brouiller les fréquences radio. Ce n'est qu'au début des années 60, lors de la crise de Cuba et la guerre du Vietnam, que l'armée américaine développe des applications pratiques de cette technologie, utile aussi pour Wi-Fi et GPS. D'autres la connaissent pour sa carrière tumultueuse d'actrice et d'amoureuse. En 1932, elle crée le scandale dans un long métrage, Extase, inspiré du livre L'amant de Lady Chatterley. Ensuite, la moitié de la trentaine de films où elle a tourné l'ont été dans le cadre d'un contrat avec la MGM à Hollywood. Peu se souviennent de ses activités de peintre. La fin de sa vie sera solitaire. Hélène Frappa signe avec Angélique Thibault « Une vie, une œuvre, Eddy Lamarr ».
How long ago were you in Paris?
I've never been.
Oh, I thought you said you did your shopping there.
Oh, no, monsieur.
Oh. Have you lived in Saigon long?
No.
J'aime les valses de Strauss, nager nu dans les lacs.
It must be a very interesting town.
J'aurais voulu être Élisabeth d'Autriche, l'impératrice Sissi, la plus belle femme du monde. Moi aussi, on m'appelait la plus belle femme du monde.
I suppose there are lots of things about Saigon and Indochina that the tourist never gets a chance to see.
Yes, monsieur.
Fritz, mon premier mari, c'était un beau salon, plein de fric, un marchand d'armes. On a dit qu'à cause de ses fréquentations, j'ai couché avec Mussolini et Hitler. C'est faux. Le premier a tiré une chaise pour que je m'y assoie. Et vous m'imaginez avec le second?
But I like to dance.
Oh. Well, here we go again.
Mes yeux clairs et mes dents blanches brillent
now
toujours sur les écrans.
What's my line?
Were you born in Europe?
Mm-hmm.
Mr. Seth?
You ever marry an oil millionaire in Texas?
Mm-hmm.
Miss Francis?
Well, should we all say it together? I
the
think we all know.
Girl in the world.
Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr, right.
Now, if you feel like talking, just go ahead and talk. You're afraid, aren't you? Well, it's our job to find out why. To explore the shadows and throw light on what we find there. Then you'll be able to see yourself clearly and face yourself honestly. When you can do that, you won't be afraid anymore.
I was living with my father. Mother had left him before we came to America. I was 10. And to me, the way he lived seemed romantic and wonderful. He was a successful painter, and women adored him. He went his own way and did what he pleased.
Just as you've been trying to do?
I suppose so.
Eddy Lamarr, la dame sans passeport d'Hollywood.
Shall I light your way?
Thank you.
C'est pas tant son visage qui m'intéressait, même s'il est fascinant, que son histoire, en fait. Cette longue vie, et surtout cette vie, cette vraie vie de femme.
Eddy Lamarr est née le 9 novembre 1914 dans la famille Kissler, et elle s'appelait Hedwig Eva Maria Kissler.
Viviane Perret, auteur des Secrets des grandes amoureuses.
Elle est née dans une famille juive aisée. Son père, Émile, était banquier. Elle est née 3 mois après la déclaration de guerre. Et la mère d'Eddy Lamarr, qui s'appelait Gertrude, était une ancienne concertiste. Donc, Eddy Lamarr est née dans une famille juive bourgeoise et déjà intellectuelle, plongée dans un milieu artistique. La particularité, et c'est une particularité qui va suivre Eddy Lamarr dans tout son parcours, c'est que la mère d'Eddy Lamarr s'est convertie au catholicisme. On est déjà dans un cas de figure historique où être juif, c'est déjà difficile et qu'il faut parfois cacher ses origines. Comme c'est une famille bourgeoise dans une Vienne qui est bouillonnante artistiquement, Madame Kessler, elle va l'initier au théâtre, elle va l'initier au cinéma. À 13 ans, Eddy Lamarr va voir Métropolis de Fritz Lang, elle va en ressortir bouleversée en disant « ça y est, j'ai trouvé ma voix, je vais être actrice ». Et comme elle avait un petit tempérament, dès 1929, la petite Heidi, elle imitait la signature de sa mère pour pouvoir sortir avant la fin des cours et aller se présenter à des auditions, cette gamine de 15 ans. Elle est belle et elle va très vite trouver des petits rôles au théâtre. Elle a rencontré Max Reinhardt, qui était donc ce grand homme de théâtre avant-gardiste viennois. Elle a pu ainsi avoir les portes de Berlin qui s'ouvrent, parce que si Vienne était vraiment un foisonnement artistique de peintres, de théâtre, à Berlin, vous aviez l'industrie du cinéma. Donc elle va faire son premier film en 1931, c'est vraiment une gamine. Et là, en 1932, elle va rencontrer un réalisateur tchèque, Gustav Machaty, qui lui fait tourner un film qui s'appelle Extase, qui pour ensuite se conformer à la censure va avoir quelques scènes retournées et va s'appeler Symphonie de l'amour.
Tous les deux pour toujours. Je fais
Gustav Machaty avait 3 ans plus tôt réalisé un film qui s'appelait Eroticon, qui était à peu près de la même eau.
Serge Bromberg, critique de cinéma.
Donc on ne peut pas imaginer qu'elle ait fait ce film par accident. Extase, c'est l'amant de Lady Chatterley. Quand on lui demande de tourner des séquences d'érotisme où elle mime l'orgasme, etc., c'est quelqu'un qui était prêt à tout pour réussir dans la carrière. Et à partir du moment où elle arrive dans l'establishment, il faut s'acheter une réputation et un statut social. Et ça passe par l'éradication du film Extase.
Mais ce film, c'est à la fois le tremplin d'Eddy Lamarr et c'est à la fois sa malédiction.
C'était le thème de la sexualité féminine, hein, parce que c'est une femme qui est mariée à un homme plus âgé qu'elle.
Christian Viviani, historien du cinéma américain.
Elle trouve l'extase sexuelle, comme l'indique le titre, dans les bras d'un jeune homme. Donc je crois que c'est probablement plus profondément ce qui avait dérangé à l'époque.
Elle simule un orgasme devant la caméra, donc ça a un peu choqué. Et surtout, elle bafoue les liens du mariage parce qu'elle épouse dans le film un homme, Émile, vieux et impotent, et qu'elle va chercher le plaisir. Et quand elle l'a trouvé, elle quitte son jeune amant. Donc, elle bafoue les liens du mariage et elle a une liberté sexuelle et une liberté de choisir ses amants. Qui là a fait que le film a été interdit jusque dans les années 1940 aux États-Unis ou même 1950. Et c'était considéré comme un film porno. Quoi. Allez voir Eddy Lamarr, vous aviez toujours une haie de femmes d'associations de vertu qui disaient qu'il faut interdire le film, etc. Bon, ça nous fait sourire aujourd'hui.
Alors, donc les parents d'Eddy la laissent partir seule à Prague, sans sa mère, sans que sa mère ne la chaperonne donc pour ce tournage. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment de la projection où donc Eddy Lamarr va assister en famille, enfin accompagné de ses parents, à la première projection d'Extase?
Alors elle a donc 18 ans, elle est assise entre son père et sa mère, et à la fin de la projection, son père se lève et dit « on rentre à la maison ». Et elle est restée pendant une semaine cloîtrée dans sa chambre à Vienne, donc elle était rentrée à Vienne, en se disant « c'est fini, ma carrière d'actrice est terminée, ma carrière de comédienne est terminée, et puis je vais perdre aussi tous mes amis ». Et en fait, pas du tout. Le film a été projeté pour la première fois en février 1933. En mars, elle remonte sur les planches en ayant obtenu un rôle que toutes les jeunes filles voulaient, à savoir Sissi. Et c'est une vedette.
«
Alors, Friedrich Mandl est allé voir Sissi. Il va faire une cour à Eddie Lamar absolument incroyable. Et puis, il la couvre des énormes bouquets de roses, des paniers entiers, etc. Et au départ, il va repousser ses avances. Mais Friedrich Mandl correspond à son tip-top. Alors la seule différence, c'est qu'il est un peu petit et un peu corpulent par rapport à vraiment son type d'homme. Mais le type d'homme d'Annie Lamar, parce qu'elle va répéter ça à chaque mariage, c'est d'avoir un homme plus âgé qu'elle. Et dans le cas de Friedrich Mandl, il a 14 ans de plus. D'avoir un homme qui a des belles manières. Je veux dire, elle vient de la bourgeoisie, donc elle aime les hommes aux manières polissées. Et qui est un symbole de virilité. Et Friedrich Mandl, il a tout ça.
Donc elle épouse ce baron, qui est plus âgé qu'elle, qui lui est juif, et qui est un personnage assez trouble en fait. Hein. C'est un trafiquant d'armes, en fait. Il a fourni la plus grande partie de l'armement à l'armée italienne de Mussolini lors de l'aventure coloniale en Éthiopie. Et c'était quelqu'un qui était assez proche des nazis quand ils sont venus au pouvoir. Le paradoxe, c'est qu'il était juif. Alors, lui va être le premier inquiété de la réputation un peu sulfureuse d'Eddie Lamar. Il veut la mettre sous clé, littéralement. Il y a cette fameuse légende qui fait qu'il rachète toutes les copies du film où figurait son épouse dans le plus simple appareil, qui a probablement donné lieu à un véritable trafic, hein, parce qu'on n'arrêtait pas de dupliquer ses copies, il n'arrêtait pas d'en acheter, ça florissait dans toute l'Europe, parce qu'on savait qu'il les payait cher.
Il est mortellement jaloux, donc il ne veut pas qu'elle remonte sur les planches, donc c'en est fini de sa carrière. Elle est là avec des bijoux, des fourrures, mais elle est dans une cage dorée. Et elle ne supporte plus, elle veut partir. Alors, en fait, Mandl organisait des dîners. Elle va rencontrer donc tous ces fascistes, mais elle va aussi rencontrer toutes ces personnes qui cherchent à acheter des nouvelles formes d'armement. On discute canons, on discute nouvelles armes. Et elle, comme elle est très intelligente, elle écoute et elle enregistre.
Elle étouffait littéralement, et quand elle quitte son mari, c'est à l'occasion d'un voyage qu'ils font à Antibes, si mes souvenirs sont bons. Elle lui est appelée pour des questions d'affaires, de travail, elle se retrouve seule et elle en profite, elle dit « je vais mettre les voiles ». Et donc elle s'enfuit d'abord Paris, ensuite Londres et ensuite Hollywood.
Alors la fuite d'Aldi Lamar de son domicile est rocambolesque. Mais dans quelle mesure Eddie Lamar n'a pas ajouté 2-3 éléments histoire de la rendre plus rocambolesque, ça c'est vraiment, elle seule pourrait le dire. Mais elle raconte qu'elle avait fait plusieurs tentatives pour partir qui s'étaient toutes soldées par un échec. Et en conséquence, elle avait décidé de vraiment s'enfuir comme une voleuse. Elle aurait, dit-elle, drogué une domestique qui lui ressemblait un peu, de façon à prendre ses vêtements, prendre ses papiers, n'emporter que quelques bijoux et prendre le train pour franchir la frontière.
I remember clearly everything that happened that night, for that was when it started. Innocently enough, on an eastbound train. It was in the early spring of 1903 to be exact. And the train was plowing through a heavy storm. I had been napping, and I awoke to find her watching me, smiling, a bird-like sort of little woman. But behind that smile, I thought I could see something of terror in her eyes. She was badly frightened by the storm, and she asked me if she could sit by me. She said it would make her feel safer. I reassured her to the best of my ability and wondered vaguely if she were mentally ill. Found out later that she was nothing of the sort. But now she seemed to read my thoughts.
Eddie Lamar fait partie de de cette galerie de portraits des très grandes stars hollywoodiennes aux origines européennes. Elle venait de Vienne, de cet univers austro-hongrois comme Billy Wilder, comme Otto Preminger, comme Ernst Lubitsch. Il fait partie de ces gens qui sont allés et partis à Hollywood dans le courant des années 30 pour des bonnes ou des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fui, il y a des gens comme le disait Billy Wilder, dans les années 30, les juifs pessimistes ont terminé à Hollywood et les juifs optimistes ont terminé dans les camps. Donc Eddie Lamar fait partie de ceux qui sont partis à Hollywood et qui y sont restés.
On est en fait donc dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale. Donc on a eu un renversement de pouvoir cinématographique, c'est-à-dire que les gros studios comme le studio berlinois, tout ça, sont en perte de vitesse par rapport à cette grosse machine hollywoodienne qui se met en place. Et le vice-président de Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer, vient à Londres chercher de la chair fraîche et il tombe sur cette aspirante actrice qui est effectivement très belle, qui est entre guillemets mal dégrossie. Elle ne correspond pas encore aux critères hollywoodiens, mais elle est très très belle. Elle a un accent autrichien à couper au couteau. Il lui propose un contrat et elle l'envoie bouler. Donc il se dit, c'est pas grave, il y en a d'autres. Il prend le paquebot. Elle monte dans le même paquebot. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'à l'arrivée aux États-Unis, elle avait un nouveau contrat et qui était beaucoup plus intéressant.
Quand elle part d'Europe et qu'elle va aux États-Unis, elle monte à bord du Normandie. Normandie qui est un vaisseau français à l'époque formidable, qui a eu la médaille de vitesse, etc. Et sur le Normandie, qui rencontre-t-elle? Cole Porter, qui fait une musique sur Eddie Lamar, une chanson sur Eddie Lamar. Partout où Eddie Lamar fait quelque chose, c'est forcément avec un grand de ce monde.
Mais c'est pas pour autant qu'elle va récupérer son statut de vedette, parce qu'il faut d'abord la formater aux critères hollywoodiens. On va lui apprendre à se tenir comme une star hollywoodienne, à se maquiller, à se coiffer comme une star hollywoodienne. On va lui faire perdre quelques kilos, on va lui faire perdre son accent autrichien, mais en attendant, elle tourne pas.
You are the first American I've ever met with a soul. It has a strange effect on me.
Louis Mayer va la rebaptiser, jusque-là c'est assez classique de rebaptiser une artiste de cinéma, mais ce qui est étonnant c'est qu'il va la rebaptiser du nom d'une autre de ses créatures. Parce que Mayer, il a eu plusieurs créatures. C'est lui, entre guillemets, qui a créé Greta Garbo. Et il avait une créature qui s'appelait Barbara Lamar. Et qui a eu une carrière cinématographique éclair, qui a eu plusieurs maris, qui a eu un fils avec lequel elle a eu beaucoup de soucis. Et la vie tragique de cette Barbara ressemble d'une certaine façon à celle que Eddie Lamar va avoir plus tard.
Elle a été aussi surnommée la plus belle femme du monde.
Oui, parce que comme je disais, en fait, la plus belle femme du monde, c'est quelque chose qui a été utilisé plusieurs fois et pour plusieurs actrices. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il lui a redonné le nom d'une femme qui était célèbre pour sa beauté. Et puis, au cours d'une soirée mondaine, elle va rencontrer Charles Boyer. On est en passe de faire un remake de Pépé le Moko, qui avait été un énorme succès avec Jean Gabin et Mireille Balin. Et on va lui proposer le rôle que tenait Mireille Balin dans un film qui va s'appeler Algiers. Et ça, c'est ce qui va la lancer.
Tomorrow, Pépé.
Tomorrow?
I never break a promise.
En fait, le premier film purement MGM dans lequel le public américain voit Eddie Lamar, c'est La Dame des Tropiques, Lady of the Tropics, avec le casting le plus sexy de l'époque, c'est-à-dire Eddie Lamar et Robert Taylor. Plus encore que La Dame des Tropiques, le très très gros succès, ça va être La Danseuse des Folies Ziegfeld. donc où il y a trois apprentis stars qui vont devenir véritablement stars du jour au lendemain, Judy Garland, Lana Turner et elle. Et qu'est-ce qu'elle fait dans La danseuse des folies Ziegfeld? Contrairement à Judy Garland qui sait chanter, elle est une star des Ziegfeld Follies et elle descend les escaliers. Voilà.
Finalement, Hedy Lamarr rêvait d'être une nouvelle Garbo. Mais au fond, clairement, le moment
Antoine Cyr, où auteur de Hollywood,
Hedy Lamarr,
La cité des femmes,
arrive à Hollywood, est le moment où ce type de star est en train de passer de mode, et ça correspond à un moment où, au contraire, on demande aux stars de faire énormément de choses. Elle va être sous contrat avec la MGM, et il faut savoir que la MGM avait une école de stars où on apprenait aux actrices à danser, à chanter, à faire des tas de prouesses scéniques tout à fait extraordinaires. Et c'est pas du tout le registre d'Hedy Lamarr. Et il y a un film qui va être assez difficile pour la carrière de Hedy Lamarr, qui est Ziegfeld Girl, qui à l'origine est un film qui est construit pour installer Hedy Lamarr en tant que star. Généralement, les films sur Ziegfeld, qui était un animateur de revue connu pour faire toujours des spectacles avec les jolies femmes, étaient des films qui faisaient d'énormes succès. Et la MGM se dit, bah tiens, on va en faire un avec Hedy Lamarr. Le problème, c'est que c'est un spectacle musical, et que dans ce spectacle musical, on fait arriver Judy Garland, qui était une actrice, une chanteuse et une danseuse qui savait tout faire. On fait arriver Lana Turner, qui avait fait aussi l'école des stars de la MGM et qui était une fille qui savait tout faire. Et puis on fait arriver Hedy Lamarr, qui ne savait pas faire tout ça. Hein. Et elle a énormément souffert de la comparaison. Tout simplement parce que ce qu'elle savait faire ne correspondait pas à ce qu'Hollywood attendait au moment où elle est arrivée.
Don't have an ear for beauty. Just an eye for it.
I'm sorry, girls.
Oh, say, come here. You want to get credit for this discovery?
I don't know anything
about...
Now,
wait a minute.
What's the matter?
I'm trying to tell
you.
Well, what are you doing here?
Why, I'm just waiting.
You're waiting? Mr. Ziegfeld's waiting?
Quasiment, on peut dire que quand elle a découvert qu'elle voulait être actrice, qu'elle aimait monter sur scène et qu'elle voulait tourner dans des films, en même temps, elle a découvert les hommes et elle a commencé à les dévorer. Donc, dès le départ, avec elle, les hommes, elle a eu ce problème. C'est-à-dire que c'était, alors on appelle ça une croqueuse d'hommes, mais si c'était un homme, on dirait simplement que c'était un grand séducteur. Et en fait, elle dit dans sa biographie, peut-être mon problème avec le mariage, et c'est le problème de nombreuses femmes, était de désirer à la fois l'intimité et l'indépendance. Et elle va courir après ça toute son existence. Et effectivement, la plupart du temps, les hommes vont être complètement bluffés, subjugués par sa beauté et vont avoir une image d'elle qui n'est pas elle. Elle était popote à Hedy Lamarr quand elle était chez elle. Et elle a une autre citation que j'aime beaucoup. Elle disait à la fin de sa vie, « Ma vie peut se résumer en deux phrases. » Tout d'abord, les hommes qui m'approchent sont complètement subjugués par ma beauté. Ils sont en extase de voir combien je suis belle. Et ensuite, ils sont totalement horrifiés de découvrir que je suis aussi intelligente. Et voilà. Et c'est le problème d'Hedy Lamarr, c'était ça. C'était une femme remarquablement intelligente. Donc, elle a fait carrière à cause de sa beauté. Elle a eu l'impression à la fin de sa vie qu'elle ne pouvait plus exister si elle n'était pas belle, et elle a multiplié les opérations de chirurgie esthétique au point de s'abîmer totalement, alors qu'en fait, elle était extrêmement riche en elle-même, riche d'un potentiel qui n'a pas pu être cultivé, un potentiel d'actrice. Il y a une citation d'Errol Flynn qui disait qu'elle avait un véritable potentiel d'actrice qui n'a pas été utilisé par les producteurs. Elle disait ma beauté comme un masque que je ne peux pas enlever. Et ça, ça a été vraiment le drame de sa vie.
You're afraid. I could promise you so many things. And yet, you're afraid.
He's my father.
As long as he's alive. Why does everything frighten you? You're going to make me very angry. And if I get angry and go on wanting you the way I do, I might tell him what happened between us.
Nothing has happened between us.
No.
which of us will he believe?
Jenny, you couldn't. You know what that would do.
He lived a full and useful life. It would be a pity to see him die. But a greater pity to see his life ruined.
With a lie.
We've been living a lie, Ephraim, and I want to be done with it. I want you to return alone.
Spécial Strange Woman, parce qu'elle va rester sous contrat à la Metro-Goldwyn-Mayer jusqu'en 44 à peu près. Et donc, elle va tourner beaucoup de films à succès, mais je dirais que ce sont des films où elle est essentiellement décorative. Probablement le film où on lui demande vraiment de jouer un personnage un peu plus complexe, un peu plus intéressant. C'est un film relativement peu connu, qui est d'ailleurs très très bon. C'est un film de King Vidor, H.M. Pulham Esquire, qui n'est pas sorti en France. Là, elle a un rôle assez complexe. C'est une grande histoire d'amour, mais qui se passe sur plusieurs années. Elle est amenée à vieillir dans le film, etc. Sinon, c'est la partenaire de Clark Gable, c'est la partenaire de Spencer Tracy. Elle a un côté très, très exotique. Tout ce qui est tant soit peu exotique, c'est pour Hedy Lamarr. La Dame des Tropiques, elle est censée être eurasienne. Dans La Danseuse des Folies, Ziegfeld, elle vient d'Europe. Et un très très gros succès, là aussi, oublié. Le film culte qui est encore le plus vif dans la tête de certains cinéphiles un peu allumés américains, c'est White Cargo. Où elle est une métisse, donc elle est passée au broude noir. Elle n'a absolument rien d'une noire, ni même d'une métisse. Hein. Et donc, c'est la femme fatale. C'est la femme fatale, elle est abominable et très très belle. Première apparition avec une phrase banale qui va devenir après une phrase culte que les amateurs se répètent. Hein. I'm Tondelayo, je suis Tondelayo. Et elle va être mexicaine aussi dans Tortilla Flat avec Spencer Tracy et John Garfield.
Je pense qu'Hedy Lamarr était une très belle femme dont la beauté n'avait pas d'accident. Hedy Lamarr, c'est une femme qui a une forme d'étrangeté, mais dont la beauté rentre quand même dans les canons de beauté les plus rigoureux. Elle est mince, elle est élancée, elle a un visage aux traits réguliers. Elle a donc finalement le type de personnalité dont on peut penser que les Américains veulent en faire une Américaine. Et elle va être handicapée dans sa carrière par le fait que son comportement n'est pas celui d'une Américaine, que son accent n'est pas celui d'une Américaine, et ça va très souvent la cantonner soit dans des rôles exotiques où elle est assez bonne, soit dans des rôles un peu bizarres de personnes qui se retrouvent aux États-Unis, qui ne parlent pas un anglais impeccable, et pour laquelle on est obligé d'inventer une espèce de pirouette du scénario pour la faire rentrer dans cette case. Donc je pense que la difficulté avec Hedy Lamarr, c'est que c'est quelqu'un qui a une espèce de beauté absolue dont les Américains aimeraient bien faire une Américaine et ils peuvent pas facilement en faire une Américaine.
How will you go? Tell me when you find out. At least I'll be able to wait bon voyage.
Joseph, you know what it means to me to go to America.
Some are not so impatient. They wait to enter legally.
I would enter legally if I could. I must go with Paulina for not to talk.
No one has asked you to make excuses.
I've destroyed your chance to get to America. I've brought you nothing but unhappiness. Poor people like us shouldn't have emotions. I don't know what we've done, but somehow we're robbed of the future.
You have just told me about your future. You have made a choice.
Don't you understand? My father, a home, freedom, a dream I've had for 10 years.
Et son contrat de 7 ans se termine vers 44-45. C'est là donc qu'elle tourne le film de Jacques Tourneur. Je crois que c'est le premier film qu'elle tourne à la fin de son contrat MGM.
Ensuite, elle va faire plusieurs films, dont Samson et Dalila, qui va être son grand succès. Et elle va avoir une carrière jusqu'en 1958. Mais c'est toujours pareil, ça va pas être la carrière qu'elle aurait voulu, parce que on va vraiment la conformer à son, on va vraiment la maintenir dans son rôle de très belle femme. Sois belle et tais-toi. D'ailleurs, elle disait que n'importe quelle fille peut paraître glamour, il suffit de se tenir tranquille et d'avoir l'air idiote.
À l'époque de la MGM, on est donc à l'époque du système des studios. Donc on a des studios qui possèdent tout, qui ont sous contrat les acteurs, les réalisateurs, les maquilleurs, et on a des producteurs qui font les films qu'ils ont décidé de faire. Et quelquefois vont naître des films d'auteur dans cet univers, mais ils vont naître parce qu'il va y avoir une espèce de pacte secret très subtil qui va se créer entre des réalisateurs et des actrices. On va le voir dans différents studios, on va le voir avec Cukor et Katharine Hepburn, on va le voir à la Paramount avec Sternberg et Marlène Dietrich. Enfin, il va y avoir une espèce de pacte secret réalisateur-actrice qui va quand même souvent donner les plus grands films de la période. Cette façon de déborder le système pour faire des films un peu auteuristes est quelque chose dans lequel Eddie Lamar ne va pas du tout rentrer. Elle ne va pas avoir de connivence particulière avec des réalisateurs et donc elle ne va pas véritablement trouver les chemins qui permettent à une actrice de s'exprimer pleinement dans ce système. Et donc finalement, elle a fait ses meilleurs films pour d'autres studios que la MGM qu'il avait recruté. Par exemple, Casbah, Algiers, n'est pas un film de la MGM, c'est une production indépendante. Le film Angoisse de Tourneur est un film de la RKO. Et donc, finalement, son histoire avec la MGM va tourner court. Elle va faire ses 7 ans de contrat sans avoir fait beaucoup de grands films à la MGM. Et là, le film Strange Woman est le film par lequel elle va essayer de reprendre en main sa carrière.
Puisqu'elle le produit.
Et là, elle le produit. Elle est à l'initiative du film. C'est elle qui va chercher Edgar Ulmer. Et donc là, on a une Eddie Lamar qui s'est taillé un rôle dans lequel il y a énormément d'engagement, puisqu'on la voit passer par des tas différents. Elle est charmeuse, manipulatrice, folle, violente. Enfin, elle est dominatrice par moments. Les scènes avec Louis Hayward sont complètement démentes. À ce moment-là, elle fait partie des actrices qui joue un rôle important, non seulement dans les films, mais en étant à l'initiative des films.
En fait, Heidi Lamar, elle avait des occupations très diverses quand elle s'est retrouvée à Hollywood de ses consoeurs. Elle jouait du piano, elle était très proche de membres du dadaïsme, elle connaissait le photographe Man Ray, et puis elle avait installé un atelier dans tous les endroits où elle a vécu. Elle a installé un atelier et elle, sa détente, c'était d'inventer. Et elle inventait tout et n'importe quoi. Elle inventait un bouillon cube qui, lorsqu'il dissolvait, se transformait en soda. Elle a inventé un collier fluorescent pour chien. Elle a inventé des systèmes pour aider les handicapés à sortir de leur bain. Donc en fait, elle était sans arrêt en train d'inventer des idées et elle était aussi sans arrêt à l'affût d'informations, sans arrêt à les transformer en inventions. On est à Hollywood, ce sont les actrices à forte poitrine qui ont la cote, donc les producteurs sont bien d'accord pour dire qu'Heidi Lamar est très belle, qu'elle a de très belles fesses, que c'est un très beau visage, mais qu'elle est trop plate de poitrine. Et donc on lui parle de Jean Gentel, qui est un pianiste qui lui a réalisé le fameux ballet mécanique, mais qui a cette petite passion à côté dans Doctrinologie, et donc elle le rencontre par le biais de son couturier, à l'origine, effectivement, pour savoir s'il peut faire quelque chose pour sa poitrine.
Il a fait une étude hormonale d'Eddie Lamar, et donc quelles étaient les conclusions de l'étude hormonale que Georges Anteil a faite d'Eddie Lamar?
Qu'elle était très portée sur la vie sexuelle, avec limite nymphomane. Et puis une fois qu'on a bien discuté de ça, que Jean Gentel lui dit « laissez votre poitrine, je vais vous faire une pommade, mais laissez votre poitrine telle qu'elle est parce que vous êtes magnifique comme ça », il est tombé sous le charme, et bien on a parlé de l'actualité. Et l'actualité, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont commencé à discuter sur comment faire, comment trouver pour aider l'effort de guerre. Et ils vont ensemble concocter ce brevet Et ils vont aller présenter aux militaires américains. Seulement le problème, vous avez Hedy Lamarr, qui est une star. Vous avez Jean Jantel, qui est un pianiste avec quand même des passions un petit peu particulières, qui viennent raconter à des militaires qu'ils ont trouvé un truc absolument génial, tout simplement en discutant de piano, de musique, de synchronisation. Évidemment, on va enterrer leur projet.
Général Jean-Louis Desvignes, ancien directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Dès la fin du 19e siècle, dès que la radio HF est apparue, un premier problème s'est trouvé, c'est un problème de brouillage, tout simplement. Et donc, déjà à l'époque, on envisageait de pouvoir changer de fréquence en cas de perturbation. Puis rapidement, les militaires en particulier se sont rendus compte que la radio était parfaitement indiscrète. Donc qu'il fallait essayer de changer de fréquence, de se sauver d'une fréquence pour passer sur une autre. Alors, bon, Hedy et Georges Antel ne sont pas des pionniers dans l'idée du saut de fréquence. Alors l'idée d'aller chercher un piano mécanique et la partition d'un piano mécanique pour faire ça, ça c'est original. C'est assez drôle même, puisqu'on va se servir des fameux papiers troués pour désigner à la place des notes, des 88 notes du piano, ben 88 fréquences hertziennes cette fois, et non pas une note musicale. Eh bien, il prévoyait même de faire des trous qui ne servaient à rien, mais qui trompaient l'ennemi. Donc, si vous voulez, en matière de guerre électronique, c'était même intéressant. Donc, ils ont proposé ça dans un brevet et ils ont présenté ça à la marine. La marine qui, à l'époque, avait quelques soucis avec ses torpilles. Bon, les torpilles, quand elles étaient guidées par ondes radioélectriques, ils auraient bien aimé pouvoir la guider jusqu'au bout. Mais quand ils ont présenté ça à la marine américaine, ils ont rigolé. Ils ont dit, vous n'allez pas nous faire monter un piano mécanique dans une torpille, quoi. Et ça n'a rien donné, en fait. Alors, contrairement à la marine américaine, les transmissions de l'armée américaine, le Signal Corps, ont étudié le système. Mais il faut dire que, parallèlement à ce que proposait Hedy, se développait dans les Bell Laboratories un système de cryptophonie pour permettre en particulier à Churchill et à Roosevelt de pouvoir parler de part et d'autre de l'Atlantique en mode sécurisé, qui était beaucoup plus avancé et plus important, et qui utilisera pour la transmission par radio les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'étalement de spectre. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une différence entre le saut de fréquence simple et puis l'étalement de spectre, qui n'est pas vraiment la même chose. Puisque sur l'étalement de spectre, qui va avoir pour but essentiel, non pas tellement d'échapper à l'adversaire pour les écoutes, mais à sécuriser la transmission. Et c'est assez amusant parce qu'on va retrouver aussi là des voisinages avec la musique, puisqu'on va utiliser des disques en vinyle pour masquer la parole. C'est très intéressant parce qu'on on voit qu'en ce moment, on cherche à voir ce qu'on a retenu des technologies de la Deuxième Guerre mondiale et qui est encore utilisé dans la vie d'aujourd'hui. Eh bien, ces technologies sont extrêmement nombreuses. Dans tous nos lecteurs MP3, MP4, nos téléphones portables, tout ça, on retrouve les techniques utilisées dans le système Sigsaly. Et cette fille, qui était une autodidacte, moi, je suis en admiration.
Hedy Lamarr. Did you ask for glamour, Mr. and Mrs. Audience? Well, Hedy Lamarr is here.
Elle a eu des prix. À partir de 1997, elle a commencé par recevoir le AAF, Pioneer, c'est un prix qui est donné pour toute personne qui ont contribué à l'avancée de l'informatique. Et elle a reçu, donc à partir de 1997, plusieurs prix qui ont enfin reconnu son apport en tant que pionnière dans les méthodes de transmission telles que le Wi-Fi, le Bluetooth. Elle a posé les jalons, les premiers jalons de cette technologie.
Son dernier dessin, c'est sa toute dernière invention qu'elle voulait mettre au point, juste avant sa mort.
Nina Childress,
puisque peintre. C'est aussi son dernier dessin. C'est une sorte de feu rouge, c'est-à-dire trois cercles, et il y a un petit smiley au-dessus, et elle a fait son profil sur le côté, et son invention, c'était dans un feu rouge à trois couleurs, insérer une ligne de LED bleue au milieu du feu orange qui s'allumerait juste avant que ça passe au rouge, pour que la sécurité soit améliorée. C'était une invention, elle.
C'est assez pictural en même temps comme invention.
Tout à fait, et donc, sur son lit de mort, avant de mourir, puisque quand elle décède, elle est devant la télévision, elle est très âgée, elle fait ce dessin, elle est habillée, maquillée, toute belle, et le dessin est à côté d'elle.
That was a long time ago.
Yes?
Oh, I don't know. I've forgotten.
Well, whoever he was, he gave a curiously superficial account of Nick. And all he had to say about you was that you raised country daisies.
Is that so strange?
What?
That I once raised daisies.
Why, no, on the contrary, if you'll remember, that's the way I said I would have painted you.
Dr. Bailey, I thought you wanted to be my friend.
I do.
May I help, madam?
No, thank you. I've changed my mind.
You must believe me. I am your friend and I know you need help.
How do you know?
It was in your eyes and your voice yesterday when you looked at me and said, please, please. It was also in your eyes in the portrait.
Peut-être on peut aller vers le portrait que vous avez.
Nick wanted me to ask you for
dinner. C'est Eddie Lamar.
Would tomorrow be convenient?
Yes, delighted. Mrs. Pedro, I am your friend. If circumstances were only different.
Shall we say 8 o'clock?
Oui, donc c'est un portrait plutôt des années, je pense, fin 40-50. Elle n'est pas toute jeune ni toute belle sur celui-là. C'est... En fait, une photo d'après une photo couleur, parce que la plupart des photos d'Eddie Lamar sont en noir et blanc, et moi je ne voulais pas prendre une image iconique trop connue. Donc c'est un petit peu la fin du mythe là. C'est un portrait où elle lève les yeux, où elle est coupée à peu près au niveau de la poitrine. D'ailleurs, Eddie Lamar avait très peu de poitrine, ce qui était rare pour les actrices à l'époque qui mettaient ça en avant. Et c'est quelque chose qu'on sent dans le tableau parce qu'elle a cette fourrure qui arrive là et qui attire l'attention avec un petit diamant. Et on n'a pas du tout l'attention sur la poitrine généreuse comme ce type de pose pourrait laisser deviner. Elle regarde en l'air, elle a une boucle d'oreille, elle est à la fois, on ne sait pas trop, c'est une expression à la fois un peu ennuyée, triste. Assez neutre. Bon, moi, ce que je voulais juste, c'était faire une Eddie Lamar géante, en fait.
Eddie Lamar, peut-être a-t-elle été trop façonnée par la Metro-Goldwyn-Mayer, qui en a fait effectivement une icône absolument splendide. Il y a eu un nombre incroyable de photos publicitaires qui ont circulé sur elle. Elle a été probablement une des actrices les plus photographiées de son temps. Donc on a beaucoup divulgué son image, sa beauté. En tant que femme, c'est probablement quelqu'un qui est très épris de liberté, qui ressent très fort les liens de toutes sortes, hein, ce qui peut expliquer ses nombreux mariages et cette émancipation assez courageuse qu'elle a eue par rapport à son premier mari et à ses débuts au cinéma. Mais... Je dirais que son ambition était probablement plus une ambition de femme qu'une ambition d'actrice, en fait.
Voilà, c'était une femme absolument exceptionnelle, pas facile, très dure avec les autres aussi. Hein, quand même, elle avait un caractère bien trempé. Je pense qu'elle disait ce qu'elle pensait, très narcissique aussi, mais toujours dans l'action. Et pas tellement dans la psychologie ou dans ces choses-là, quoi. Je pense que son exutoire, ce que la peinture prouve, c'est que bon, voilà, elle n'allait pas faire des grandes dépressions comme certaines actrices ou être alcoolique, elle buvait pas d'alcool, pas du tout, non, elle se défoulait autrement. Et la peinture, alors la peinture, bon...
La peinture arrive quand dans sa vie ?
Alors, de ce que je sais, c'est que elle a, très certainement au début des années 50, c'est-à-dire assez vite quand elle va commencer à arrêter de tourner. Au départ, c'est un peu de la peinture mondaine, elle fait des voyages avec des amis peintres, elle s'essaye un peu, mais de toute façon, je pense qu'elle a toujours dessiné pour le plaisir, un peu comme jeune fille de bonne famille. Et peut-être que c'était même une sorte de peinture de convention, c'est-à-dire pour la presse, pour les journalistes, pour dire je fais quelque chose. Bon, après, dans les années 40, quand elle était mariée avec Howard Lee, le riche Texan, 50, elle a eu une grosse collection d'art, avec des Modigliani, des peintres connus. Bon, elle a vendu tout ça, évidemment, après, mais il y avait cet intérêt. Et elle disait aussi des choses assez drôles. Elle disait que de toute façon, son mari s'en fichait. Ils allaient dans des galeries, et puis lui, ce qu'il voulait, savoir combien ça coûte. Et elle, bon, elle prenait plaisir à choisir des tableaux pour sa collection.
Vous parlez dans l'entretien que j'ai lu à ce propos de cette année de recherche que vous avez consacrée donc à retrouver ces peintures. Vous détaillez les inventions, le fait qu'elle aimait expérimenter dans les techniques même de peinture.
Alors, non seulement ces peintures ne sont pas montrées, mais je pense qu'elles sont volontairement cachées. C'est un petit peu mon idée, parce que je pense que ce que les gens veulent garder d'Eddie Lamar, c'est son visage, avant tout. Donc ces peintures qui sont, qu'on pourrait qualifier un peu de croûte, mais pourquoi ? Enfin, pas forcément, finalement, pourraient ternir. C'est une autre image qui vient, en fait, qui ne va pas. Sa technique, effectivement, bon, son fils m'a raconté qu'elle prenait de la colle, qu'elle versait, qu'elle attendait que ça sèche, et après elle faisait de la bombe. C'est surtout sensuel, quoi, quelque part, de faire ça, de verser, de couler. Bon, on était 10 ans après Pollock et ses drippings, c'était tout à fait admis de faire ce genre de choses, et bon, voilà, elle voulait s'amuser. Elle voulait passer du bon temps, un peu comme faire de la cuisine, quoi. Bon, bien qu'elle cuisinait pas du tout, mais je pense qu'aussi, peut-être l'idée de la peinture, l'idée d'être une artiste, lui plaisait. Le moindre de ses dessins est signé en immense, quoi. Donc c'est drôle parce que y a cette idée de l'actrice qui fait un autographe et en même temps elle signe. Enfin, pour elle, c'est valable parce que c'est signé.
Tout le travail qui a été fait sur Eddie Lamar et auquel elle a contribué d'une certaine manière, ou du moins contre lequel elle ne s'est pas élevée tant qu'elle était sous contrat à la Metro Golden Mayer, visait à faire d'elle une icône. Alors le propre des icônes, c'est évidemment qu'elles imposent une apparence extrêmement fascinante. Ce qui veut dire aussi que fatalement, puisque l'apparence aveugle, la réalité derrière l'icône, c'est un mystère. Et donc il y a là ces deux notions qui devaient terriblement fasciner Andy Warhol. Donc la rencontre me paraît inévitable.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est historiquement le devenir, enfin la mutation, disons, depuis le cinéma, l'Europe, le cinéma hollywoodien classique, et puis ce moment de basculement où Hollywood meurt, en fait, le Hollywood classique meurt, et où Andy Warhol saisit quelque chose aussi de la postmodernité d'Eddie Lamar, finalement, ou en tout cas, il la transforme en ce...
Et si vous voulez, par rapport à d'autres icônes qui ont pu inspirer Andy Warhol, je pense à Elizabeth Taylor ou je pense à Marilyn Monroe, la différence qu'il y avait avec Eddie Lamar, c'est que Eddie Lamar était déjà classé dans le passé. Alors que Elizabeth Taylor était encore en activité, quant à Marilyn, la flamme de Marilyn dans la mémoire était très 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 vive, très très forte. Or, Eddie Lamar était vraiment un magnifique constat d'échec et d'oubli, en fait. Elle incarnait quelque chose de terrible, peut-être presque tragique, en fait.
Hedy Lamarr fait partie des actrices dont la carrière se termine à peu près au moment où l'âge d'or d'Hollywood s'achève et où la télévision prend le relais, avec aussi d'ailleurs l'éclosion d'actrices qui sont des actrices qui s'inscrivent peut-être plus dans une espèce de banalité du quotidien, ce qui était quand même pas du tout le cas d'Hedy Lamarr. Je crois que George Sanders disait que quand elle arrivait quelque part, toutes les conversations s'arrêtaient, et que d'ailleurs les gens oubliaient de lui demander ce qu'elle avait à dire, ce qui fait que la plupart d'entre eux ne se rendaient pas compte que c'était une femme d'une intelligence exceptionnelle.
La fin de sa vie, donc on va dire que sa carrière artistique cinématographique, elle s'est arrêtée en 1958. Ensuite, elle a été, en 1966, elle a été arrêtée pour vol à l'étalage. Elle a été arrêtée deux fois dans sa vie. Donc c'est vrai que le fait d'avoir voulu être sa propre productrice lui a fait perdre beaucoup d'argent. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a perdu, d'abord elle a perdu sa beauté, parce que les opérations de chirurgie esthétique qu'elle a faites ne peuvent pas rattraper tout simplement le fait d'avancer en âge. Et elle a perdu sa beauté, elle a perdu le métier qui lui donnait de la lumière. Et on dit que c'est pour des raisons financières qu'elle avait accepté d'écrire sa fameuse autobiographie qui s'appelle Ecstasy and Me en 1966, qui s'est fort bien vendue. Et à partir de là, elle a trouvé un nouveau filon qui a été de poursuivre tous ceux qui utilisaient son image sans son accord. Elle a été extrêmement procédurière et ça lui a permis de pas mal remonter ses fonds. Mais donc, c'est vraiment... en fait, parce que toute la vie d'Hedy Lamarr est un film... C'est rocambolesque, il y a tous les éléments, tous les ingrédients possibles et inimaginables que vous pouvez souhaiter dans un film, des histoires d'amour malheureuses, elle quitte son pays avec simplement des bijoux dans la poche, etc. Tous les ingrédients sont là. Et la fin de sa vie aussi, l'actrice déchue, avec le visage défiguré par la chirurgie esthétique, qui vit recluse, qui n'a plus d'amis, etc. Mais les gens ont continué à s'intéresser à elle. Ils ont continué à lui écrire. Elle a continué à avoir des interviews. Et là, elle révèle à la fois une capacité à se renouveler, à se transformer et beaucoup d'humour.
Ladies and gentlemen, here's Miss Hedy Lamarr. You're a beautiful woman.
Thank you.
Have we agreed on that?
Yes, oh yes, yes.
Did you say you put on 1969, le Merv Griffin Show reçoit Hedy Lamarr.
Did you put on something new?
Woody Allen fait des blagues sur le nom de jeune fille de sa mère, Lipschitz, et ses origines juives.
Thank you. Can I, what do I do? Hedy, can I?
Yeah, of course, it's my name.
Ah, that's a terrific name. That's a great name for a movie star, Hedy Lamarr.
Yes. Sounds right, like for...
They don't have names like...
It's formerly Hedy Lipschitz, I think.
Was it?
It's a big story about that.
Don't
attack me. No, I'm not. On the other hand...
Yeah. Were you Miss Lipschitz?
No. Are you willing to be Miss Lipschitz? Mr. Lipschitz.
Elle avait bien quand même compris cette manière d'attirer l'attention et elle a transformé ses vols à l'étalage en seconde petite gloire parce que du coup ça l'a remise sur le devant de la scène et puis là par derrière elle a fait des procès.
Qu'est-ce qu'elle avait volé?
Oh, elle avait volé des bricoles, elle avait volé, je crois, des tubes de rouge à lèvres. Et en plus, la première fois, elle a été arrêtée, elle avait volé dans plusieurs magasins à la suite, en fait. Mais des espèces de... vraiment, enfin, l'équivalent, je ne sais pas si on peut citer une marque, mais l'équivalent d'un Monoprix, vraiment, pas des choses extraordinaires. Et à son premier procès,
Elle est arrivée superbement maquillée avec un joli tailleur, etc. Elle signait des autographes devant, enfin. Et elle disait, mais je comprends pas parce qu'à Macy's, on me laisse faire. Il faut pas oublier que c'était quand même une actrice. Donc quand elle avait les lamplights, quand elle avait les lumières sur elle, elle jouait son rôle. Et elle le jouait très très bien. Donc elle est, d'un côté elle ose, d'un côté elle est provocante, d'un côté elle ment et elle se réinvente. Et bon, voilà, c'est un kaléidoscope cette femme.
C'est quelqu'un qui finalement, malgré une vie publique qui a été très largement affichée dans les journaux, c'est quelqu'un sur qui on connaît relativement peu de choses, qui s'est relativement peu livré en dehors de ses propos vraiment purement press people en fait. Hein. Donc qui était-elle vraiment? Est-ce que tout simplement, est-ce qu'elle avait peur de jouer peut-être? Avait-elle peur de se lancer dans des rôles trop compliqués pour lesquels elle pensait peut-être ne pas être à la hauteur? C'est possible.
Alles ist nicht wahr und nicht wirklich. Ich bin ganz einfach und trotzdem irgendwie kompliziert dadurch, dass ich sehr sensitiv bin. Und ich sehe und höre alles viel mehr als andere hören und sehen. Ich meine, wie können Sie einen Menschen verstehen, die...
Tout ce qu'on raconte sur moi n'est pas vrai, ni réel. Je suis absolument simple, même si ma grande sensibilité me rend complexe. J'entends et je vois beaucoup plus clairement que la plupart des gens. Entendre, voir, comment comprendre un être humain qui a autant de facettes différentes que moi? J'ai joué beaucoup de rôles. J'ai été une mère qui devait rester à l'arrière-plan, puis une actrice qui revenait au devant de la scène. Ce n'est pas ce que je désirais. Moi, je suis toujours la même personne. Quand mes enfants étaient petits, ils ignoraient que j'étais une actrice. Je voulais qu'ils me connaissent seulement comme personne, comme être humain.
Goodbye, stranger.
From here to eternity, a love so true, it never would die. You gave your lips, gave them so willingly. How could I know? Your kiss meant goodbye.
C'était Eddie Lamar, La Dame sans passeport d'Hollywood. Un documentaire d'Hélène Frappa réalisé par Angélique Thibault. Prise de son et mixage, Cédric Chatelus. Avec Viviane Perret, auteur des Secrets des Grandes Amoureuses. Christian Viviani, historien du cinéma américain. Serge Bromberg, critique de cinéma. Antoine Cyr, auteur de Hollywood, La Cité des Femmes. Le général Jean-Louis Desvignes, ancien officier chiffre à l'état-major des armées, ancien directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Nina Childress, peintre. Merci à Elodie Dufour, Nicole Brenez, Nathalie Piernaz, Noël Herp, Cyril Duret. Attaché d'émission, Claire Poinçon. Coordination, Irène Omelianenko. We'll never know why, though you are gone. This love that you left with me, this endless desire.
from here to eternity.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, ce sera le temps des écrivains. Et la semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, la poétesse Louise Labbé.